à la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est toi qui es notre lumière. Et tu nous éclaires aussi à travers l'écoute de ta parole. Alors, comme nous l'avons aussi chanté, nous nous tenons là à tes pieds. À tes pieds, justement, comme les disciples se tiennent justement au pied du Maître pour apprendre tout, mais vraiment tout de lui. Le disciple n'a aucune volonté propre. Le disciple, il apprend du Maître afin d'accomplir uniquement la volonté du Maître. Et c'est ça notre prière ce matin. Nous voulons tout apprendre de toi afin d'accomplir ta volonté, comme Jésus nous l'a enseigné. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous te recommandons nos enfants aussi et prions que, oui, ta volonté continue déjà à s'accomplir dans leur vie, mais vraiment très tôt dans leur vie. Et que la foi, mais vraiment très tôt, soit déjà leur partage, la foi en Christ. Accorde-nous, parole, la force de leur transmettre cet héritage. La grâce, Seigneur, de leur parler à chaque instant de ta parole. Bénis-nous, Seigneur, dans cette attente qui est la nôtre. Bénis ta parole et que ton esprit nous éclaire et nous guide. C'est dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler ce matin d'un aspect ou d'un principe de la révélation. D'ailleurs, comme je vous l'avais promis dimanche passé, à travers le titre de son message, « Voir, c'est recevoir ». Voir, c'est recevoir. Alors, je vous invite, en l'honneur de notre Seigneur et notre Dieu, pour ceux qui le peuvent, bien entendu, de nous lever pour écouter la parole de Dieu. Vous savez que Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair, et c'est lui que nous voulons honorer quand nous honorons sa parole. Deutéronome, chapitre 3, les versets 27 et 28. Deutéronome 3, 27 et 28. Je lis au nom du Seigneur. C'est l'Éternel qui parle. Il parle à son serviteur Moïse. Monte au sommet du Pisga. Porte tes regards à l'occident, au nord, au midi et à l'orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Amen. Alors, je vous invite à vous asseoir. Merci. Frères et sœurs dans le Seigneur, le livre du Deutéronome, c'est le dernier des cinq livres qu'on appelle le Pentateuque, les livres de Moïse. Vous savez, c'est un des livres, sinon le livre le plus spirituel de la Bible. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est en même temps le livre du souvenir, parce que Dieu n'arrête pas de dire à Moïse, dis au peuple de se souvenir, de ne jamais oublier, de se souvenir, de ne jamais oublier. Et Jésus nous a dit que la coupe que nous partageons, c'est la coupe du souvenir. Ne jamais oublier l'œuvre que le Christ a accomplie pour nous à la croix. Et ce qui se passe dans ce passage, c'est que Dieu se révèle à son serviteur et lui dit, toi, tu ne passeras pas le Jourdain. Autrement dit, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Et il lui dit, vois, regarde, pas à toi, mais aux autres. Toi, tu n'y entreras pas, mais c'est Josué qui rentrera avec les autres. Je vous disais que le titre de mon message, c'est « Voir, c'est recevoir ». Autrement dit, « Voir, c'est avoir ». Une autre façon de le dire, « Voir, c'est posséder ». Oui, avec Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux posséder que ce qu'il t'a fait voir. Il te faut donc voir pour posséder. Pour posséder. Alors, autrement dit, il te faut voir pour recevoir. Oui, remarquez, après avoir conduit Abraham dehors, oui, Dieu lui dit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, au verset 5, il dit à son serviteur Abraham, regarde, autrement dit, vois, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il ajoute, telle sera ta postérité. Il lui a fait voir, et il lui promet qu'il recevra. Alors, un certain Nicodème, docteur de la loi, est venu voir Jésus, justement, de nuit. Alors, non pas pour lui poser une question, mais pour lui dire ceci. Il dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, je suis dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, Jésus lui répondit au verset 3, « en vérité, je te le dis, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir. » Alors, Nicodème dit à Jésus, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Verset 5, Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, » Quelqu'un peut ajouter ? Pardon ? Il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Verset 5. Au verset 3, Jésus lui dit, tu ne peux voir. Si tu ne nais, tu ne peux voir. Et au verset 5, tu ne peux entrer. Donc, le principe ici est le même. Celui qui n'a pas vu ne peut pas rentrer. Celui qui n'a pas vu ne peut pas rentrer. C'est Jésus qui le dit à Nicodème. Ce n'est pas à dessein qu'il a changé voir à rentrer. Parce qu'il fait le lien entre les deux. Voir, c'est rentrer. Ils te font voir au préalable pour entrer. D'ailleurs, l'Éternel avait dit une chose pareille à Abraham au sujet du pays dans Genèse chapitre 13, au verset 15. « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Oui, frères et sœurs, avec Dieu, voir, c'est avoir. Autrement dit, voir, c'est posséder. Alors Seigneur, fais-nous voir, montre-nous. Or, montrer c'est quoi? Montrer c'est révéler. Montrer c'est révéler. Les passages, en tout cas, que nous venons de lire, que nous avons lus, ont quelque chose de commun. Ils contiennent tous, d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, l'idée de vision. L'idée de vision. À la question de savoir de quoi le peuple de Dieu a le plus besoin à l'heure actuelle. De quoi? Quelle est la chose qui représente pour lui, pour le peuple de Dieu, une question de vie ou de mort? Il nous faut ça, sinon... Alors moi, sans hésitation, en tout cas, je dirais que notre besoin le plus urgent, notre besoin le plus impérieux, c'est que Dieu intervienne dans notre vision spirituelle. La Bible appelle ça aussi le renouvellement de l'intelligence. Mais pour que nous puissions voir justement ce que lui voit. Oui, Mais écoutons, bien-aimé, sans voir ce que Dieu voit. Sans voir ce que Dieu voit. Autrement dit, sans vision. Mais que pouvons-nous faire, ok, qu'il lui soit agréable? Que pouvons-nous faire? Nous ferons des choses, mais vous croyez que Dieu sera agréé? Dieu va agréer? Non. Que pouvons-nous faire qui lui sera agréable sans vision, sans avoir vu? Mais rien. Bien-aimé, tout, je dis bien tout est au ciel. Tout est au ciel. Ce qu'on appelle le royaume des cieux. Tout est au ciel. Je dis bien tout. Et comme dans la prière de notre Père, justement, la terre doit faire les choses en fonction du modèle, j'allais dire original, qui se trouve au ciel. Oui, mais là encore, il nous faut voir effectivement ce qui est au ciel. Vous savez, Dieu a beaucoup insisté auprès de son serviteur Moïse sur le fait que le modèle du tabernacle qu'il doit construire sur la terre, soit la copie, mais vraiment la photocopie de l'original qui est au ciel. Dieu l'a fait voir, dit, regarde. Oui, mais ceci dans les moindres détails, dans les moindres détails. Et ces détails lui ont été communiqués alors que Moïse passait 40 jours et 40 nuits de jeûne sur la montagne du Sinaï, autrement dit le mont Horeb. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Voilà ce que Dieu dit à son serviteur Moïse. Exode 25 au verset 9. L'Église de Jésus-Christ, frères et sœurs, se trouve aujourd'hui dans la même situation que le peuple d'Israël, tel qu'il est écrit dans le livre de 1 Samuel au chapitre 3 au verset 1. 1 Samuel 3 verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie le sacrificateur. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Pour le dire autrement, il n'y avait pas de révélation spirituelle parmi le peuple de Dieu. Oui, la conséquence est que, pour l'Église évidemment, le témoignage de l'Église manque de pertinence, le témoignage de l'Église manque de sel, j'allais même dire de piment, alors qu'il doit être incisif ce témoignage. Il doit être poignant, tranchant, percutant, le témoignage de l'Église. Et c'est ce qui nous manque. Enfin, je ne sais pas si vous êtes satisfait, mais franchement, la notion de vision, justement, se définit bibliquement de deux manières différentes. La notion de vision. C'est d'abord une chose que l'on voit. Vous voyez, une chose que l'on voit. Ensuite, c'est la capacité de voir la chose. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est d'abord une chose que l'on voit et ensuite la capacité de voir la chose dans cet ordre d'idées. Dans cet ordre d'idées, vous voyez, l'apôtre Paul a été envoyé. D'abord, dit la Bible, pour ouvrir les yeux des aveugles spirituels. Ensuite, pour présenter à ses yeux ouverts, justement, voyez, le Seigneur Jésus. Je suis dans Actes 26, versets 17 et 18. « Je t'ai choisi, dit l'Éternel, du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. » Ensuite, pour recevoir par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est d'abord une chose que l'on voit et ensuite la capacité de voir la chose. Frères et sœurs, dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, au verset 22 à 26, il est écrit ceci. Ils se rendirent, il s'agit de Jésus et de ses disciples. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers lui un aveugle. Ah, ok, un aveugle. On amena vers lui un aveugle qu'on le pria de toucher. C'est-à-dire, on amène un aveugle, on lui dit, impose-lui la main. C'est ce que ça veut dire. Oui. On le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main. C'est Jésus qui prend l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Premier niveau, il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Ah, ouais, premier niveau. Il voit, voyez, mais sa vision n'est pas encore nette. Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Nous voyons, mais est-ce que la vision est nette? Donc, d'abord une chose que l'on voit, ensuite, la capacité de voir la chose. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Il lui impose à nouveau les mains. Et quand l'aveugle regarda fixement, il est dit, il fut guéri et vit tout distinctement. Deux étapes. Voilà la vision. Voilà la vision que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière, les yeux de notre cœur, mais pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Frères et sœurs, nous pouvons donc dire que la vie chrétienne telle qu'il nous est présentée dans le Nouveau Testament est, du début jusqu'à la fin, le résultat d'une vision. Ce que le langage biblique appelle la révélation. Il nous faut la révélation, de sorte que la vie chrétienne nous est toujours présentée dans la Bible comme étant directement ou indirectement liée à la question de la vision ou de la révélation. Le salut, bien aimé, tout entier est une affaire de révélation. C'est Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ de caché et d'inconnu qu'il était, qui se trouve subitement dévoilé à l'homme, Jésus-Christ. Être sauvé, c'est en venir à voir qui est le Seigneur Jésus et ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas simplement le fait d'entendre certaines choses et y ajouter la foi. Non, il s'agit de les voir avec les yeux du cœur. Nous devons voir. Dans le Nouveau Testament, chaque pas en avant, chaque nouveau jaillissement de vie est toujours le résultat de quelque chose qu'on a vu dans la personne du Christ Jésus et qu'on n'avait pas vu auparavant. C'est la même chose pour un ministère, pour un service dans l'Église. L'apôtre Paul, par exemple, sa conversion, vous voyez, est par excellence le résultat d'une vision. Nous le savons, on a entendu acte 9, acte 22, acte 26, on l'a dit. Et les choses ne se sont pas arrêtées là. Son avancement, sa progression spirituelle également est le résultat d'une révélation, mais encore plus complète que la première. Alors, que dire de son ministère ? Nous sommes maintenant habitués avec ce verset 15 de Galates 1. On l'a entendu les deux derniers dimanches où il lui a été dit, où il a dit lui-même, pardon, « Lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils pour que je l'annonce parmi les païens. » Nous avons là aussi non seulement la révélation, mais le but de la révélation. L'annoncer parmi les païens. Ce que nous devons savoir, frères et sœurs, c'est que notre salut final est aussi une affaire de révélation. L'apôtre Jean déclare ceci dans 1 Jean chapitre 3 au verset 2. « Bien-aimés, Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire que lorsque cela sera révélé, mais nous serons semblables à lui, mais parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons. Nous le verrons. La vie chrétienne est donc, je disais, du début jusqu'à la fin, une affaire de révélation, une affaire de vision. Attention, bien-aimés, moi, je ne parle pas de tout ce qui est mysticisme, je ne parle pas de tout ce qui est, je ne sais pas, superstition, ou je ne sais pas, la magie, non. Je ne parle pas de ces choses, non. Mais de révélation. Et la révélation, c'est lorsque le Saint-Esprit rend le Seigneur Jésus réel à nos cœurs. C'est de ça que je parle. Oui. Non pas une vision objective, mais une révélation subjective. C'est ce que l'apôtre Paul demande à Dieu dans sa prière en faveur des chrétiens d'Éphèse. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Qu'il illumine les yeux, mais le cœur et les yeux de notre cœur pour que nous sachions. Vous voyez, les yeux du cœur, c'est de ça. D'ailleurs, à travers ce verset, nous voyons que la vraie vision, vous voyez, n'est pas une affaire de réflexion. Ce n'est pas parce que j'ai pris beaucoup de temps, j'ai réfléchi. Ce n'est pas une affaire de réflexion, la vraie vision. Hein? Mais plutôt une affaire de quoi ? Le cœur, c'est le siège des affections. Donc, c'est plutôt une affaire d'affection. Le cœur est visité par le Saint-Esprit. C'est ce qui est dit. Dieu veut transformer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Dans le cœur capable de recevoir la vision de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Chers frères et sœurs, comprenons bien ceci, nous sommes en pleine célébration de la semaine universelle, voyez, pour l'unité des chrétiens. Nous prions justement pour l'unité des chrétiens. Mais la vision. La vision dont nous parlons, vous savez, est un puissant facteur d'unité. Oui, la vision, un puissant facteur d'unité. Si nous avons des différentes dénominations d'église, X, Y, Z, W, Z, des différentes dénominations d'église, mais c'est à cause de la multiplicité des visions. Et même au sein d'une même dénomination, il y a ce qu'on appelle des petites visions différentes ici et là. Alors que la vision spirituelle, celle que le Saint-Esprit rend réelle à nos cœurs, est un puissant facteur d'unité. Le peuple doit avoir une seule vision, car c'est elle. C'est la vision qui donne à la vie, et surtout c'est la vision qui donne à la collectivité, à la communauté, l'unité et la cohésion. L'unité et la cohésion, la vision. Moïse est considéré comme le père de la nation d'Israël, entre guillemets, symbole d'unité, justement. Mais ceci à cause de quoi ? Mais à cause d'une vision. À cause d'une vision, celle que Dieu lui a révélée au buisson ardent, Exode 3. Vision qui a consisté à quoi ? Mais à libérer le peuple d'Israël de l'esclavage afin de le conduire ensuite à travers le désert. Si bien que la sortie d'Égypte n'a pas été opérée simplement pour permettre aux enfants d'Israël, voyez, de recouvrer leur liberté nationale, leur indépendance, mais pourquoi ? Pour préparer ce peuple à recevoir la révélation de Dieu. C'était pour préparer le peuple à recevoir la révélation au sujet des premiers chrétiens. Il est dit qu'ils étaient quoi ? Il est dit qu'ils étaient un seul cœur et une seule âme. Acte 4. Mais parce qu'ils avaient tous vu une seule chose, le Christ vivant. Une seule chose. Ils avaient tous la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, quand c'est le cœur qui est pris, le cœur, mais parce que le Seigneur lui est apparu, quand c'est le cœur, vous voyez qu'il y a là une grande force d'unité. Une grande force d'unité. Alors, si la vision est un puissant facteur d'unité, elle est aussi un puissant facteur d'affranchissement, de libération, d'émancipation, de tout ça. Mais à cause de la vision justement de Jésus-Christ, Paul s'était émancipé de quoi ? S'était affranchi de quoi ? Et du judaïsme et tout ce qui s'ensuit. Oui, il voit le Seigneur Jésus dans la gloire. Résultat des courses, il dit quoi ? Il dit qu'il n'y a plus ni juifs, ni grecs. Pourquoi ? Tous nous sommes devenus. Et il dit que Christ est tout et en tous. Un. Vision spirituelle, puissant facteur d'unité, vision spirituelle, puissant facteur d'affranchissement, de libération. Et troisième élément, la vision spirituelle est aussi un puissant, oui, secret, on peut le dire comme ça, de persévérance. De persévérance. C'est encore la vision qui a soutenu Moïse, qui lui a donné le courage devant Pharaon et durant tout son ministère, Moïse. Vous savez, après l'épisode du veau d'or, ça se passe dans Exode 32, lorsque le peuple d'Israël s'est fabriqué un faux dieu avec l'aide d'Aaron, l'Éternel a dit à Moïse, et ça on le trouve dans le livre du Souvenir, dans le livre du Deutéronome, l'Éternel dit à Moïse, mais laisse-moi les détruire, en parlant du peuple. Il dit, laisse-moi les détruire et effacer leur nom du dessus des cieux. Et il promet à Moïse, il lui dit, je ferai de toi une nation puissante et plus nombreuse que ce peuple. Deutéronome 9, verset 14. Vous voyez ? Mais Moïse aurait pu se dire, waouh, Dieu va exterminer le peuple, mais moi, non, et bien plus, il va faire de moi, oh là là, une nation beaucoup plus puissante que ce peuple. Mais il aurait pu s'arrêter et puis dire, mais la vision, Exode 3. Lorsque Moïse pense à la vision, mais non, il s'est dit, non, c'était au peuple, conformément aux promesses reçues par notre père Abraham. Non, c'était au peuple que Dieu avait fait les promesses. Et à partir de là, il est dit, je me prosternais, c'est Moïse, il dit, je me prosternais devant l'Éternel, je me prosternais 40 jours et 40 nuits, mais parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur l'Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Voyez ce que la vision permet ? La vision permet à Moïse de faire quoi ? De persévérer. Il dit oui, le peuple a commis une faute, un péché, s'est fabriqué une idole, mais souviens-toi de ta promesse. Moïse, persévérer. Donc, quand ce sont les yeux du cœur qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, quand c'est le cœur qui a saisi le Christ, voyez que les difficultés de la vie deviennent quoi ? Les difficultés de la vie sont considérées comme des opportunités pour la manifestation de la gloire de Dieu. Oui, bien-aimés, à l'étape où nous sommes parvenus, il nous faut maintenant voir. Oui, à l'étape où nous sommes parvenus, il nous faut maintenant voir. Il nous faut voir plus loin, ailleurs. Je dirais même mieux, il nous faut voir dans un autre monde. Alors, demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels pour que, justement, dans les choses qui concernent son Fils, Jésus-Christ, qu'il nous soit donné de voir toujours plus et toujours mieux. Ouais. Frères et sœurs, vous voyez là où il y a la difficulté. Si vous n'avez pas encore, en tout cas en vous-même, quelques expériences réelles de ce que j'essaie de vous dire, c'est comme si je m'adressais, excusez-moi, mais à des aveugles. Vous voyez ? C'est toujours là la difficulté. Si vous savez, je dis bien si vous savez, même un peu, en tout cas, si faible soit-elle, si vous savez, ce que je veux dire, si vous avez vu même un peu, que ce soit, si quelque chose vous est apparu un jour avec toute la force, toute la puissance qu'amène l'illumination des yeux intérieurs, si vous avez vu et que vous êtes dit « maintenant je vois », alors vous savez quelle puissance est venue dans votre vie par ce simple fait d'avoir vu. Et quelle libération en est résultée pour vous, quelles perspectives nouvelles se sont ouvertes à vous. Oui, il y a une très grande puissance dans le fait de voir ainsi. Si vous voyez, en tout cas vous savez de quoi je parle. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un grand aboutissement que Dieu a en vue, mais toujours grand, quelque chose de très grand, d'immense, et le moyen par lequel, oui, il va y parvenir, c'est en ouvrant continuellement, vraiment nos yeux. Nous resterons plantés là, nous serons maintenant bloqués sur place si nous n'avons pas de révélation. Oui, il y en a beaucoup, hélas, pour lesquels toute révélation a cessé. Oui, on entend ça. Il n'y a plus de révélation. Non, c'était l'ancien temps. Vous comprenez bien que je ne parle pas ici de quelque chose qui soit au-delà, en dehors des Écritures. Je ne sors pas du cadre de la parole de Dieu. Ce que je dis, c'est que, voyez, avec la Bible, nous avons le livre. Le livre. Et le livre, vous voyez, peut être saisi, le livre. Il peut être compris, il peut être possédé, il peut être maîtrisé. On peut maîtriser tout. Et qu'on peut être justement comme un certain Apollos, vous voyez. Apollos, la Bible dit qu'il était puissant dans les Écritures. Et ne pas avoir la moindre notion de la vitalité du Saint-Esprit. Vous voyez ? Paul arrive à Éphèse sur les talents d'Apollos, dont on disait qu'il était puissant dans les Écritures. Et que constate-t-il ? Il constate que ceux auprès de qui s'était exercé ce ministère d'Apollos, justement, ignoraient jusqu'à l'existence même du Saint-Esprit. Alors, Priscille et Aquilas et Prisca ont pris Apollos avec eux et ils lui ont exposé les choses plus exactement, nous dit la Bible. Vous voyez ? Donc, on peut donc être puissant dans les Écritures. Oui, le livre est là, la lettre est là. Et on peut être parfait quant à la lettre, parfait quant au livre. On peut connaître par le menu tout ce qui s'y trouve écrit. Et rester néanmoins parfaitement étranger à la vie, à la vision divine, à l'énergie, à la puissance, à la fraîcheur qui s'y trouve. Vous voyez que l'un ne va pas sans l'autre. Il nous faut les Écritures, nous sommes d'accord. Mais que sont-elles sans le Saint-Esprit ? Dites-moi, que sont-elles sans le Saint-Esprit pour nous les ouvrir, pour nous les révéler par un chemin vivant, pour que nos yeux intérieurs, à travers les Écritures, voit de façon grandissante la signification de Christ. Sa plénitude nous émerveille de plus en plus. Mais c'est là qui fait de la foi chrétienne, vous voyez, quelque chose de vivant, de rafraîchissant, de puissant, de vital. Là est le chemin du réveil. Oui, c'est là le chemin du réveil. Je suis d'avis que c'est là le réveil dont nous avons besoin. Voir le Seigneur à nouveau. Il n'en faut pas davantage pour que les choses changent. Il n'en faut pas davantage pour que les choses changent. De voir, de notre point de vue, la plénitude de Christ s'accroître sans cesse. Les choses avancent lorsqu'il en est ainsi. Je l'ai fait ici, frères et sœurs, que vous présentez l'objet de la révélation en précisant le domaine où elle se réalise. Ce dont nous avons besoin, c'est que le Seigneur Jésus nous révèle Christ. Le Seigneur nous révèle Christ nous le révèle pleinement dans notre fort intérieur. Vous voyez ? Mais il n'y a aucun doute que cela sera coûteux. Cela sera coûteux. Il n'y a encore jamais eu de vraie révélation sans qu'une très grande responsabilité et un très grand prix n'en découle. Jamais. Ceux qui ont vu, souvenons-nous, Abraham, Moïse, Paul, mais ceux qui ont vu n'ont pas tardé de constater justement qu'ils étaient dans un chemin bien douloureux. Il en a coûté à Abraham de voir le Dieu de gloire. Il en a coûté à Moïse de voir le Seigneur, à Ésaïe, chapitre 6, verset 1. Et que dire justement de Paul ? Voir le Seigneur lui a coûté tout ce qu'il avait. Et tout ce qu'il était, on a lu, n'a pas passé. Philippiens chapitre 3. Lisez tout ce chapitre. Mais qui donc, justement, qui donc, après avoir vu, voudrait échanger cette vision, cette révélation contre une tradition ? On fait les choses par tradition. Mais qui voudrait échanger la vision contre une tradition, contre quelque chose de terrestre, contre quelque chose de temporel, même religieux ? Non, on ne peut plus retourner à ces choses. C'est l'exemple de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Ce que nous avons de plus précieux, c'est d'avoir vu et de continuer à voir. C'est la vie. Et je suppose que vous comme moi, nous désirons plus que toute autre chose, mais avoir une foi vivante, une foi dynamique. Nous ne voulons pas seulement être assis là, dans une atmosphère simplement pieuse, savoir quelque chose parce qu'on nous l'a dit, être instruit de certaines vérités par des méthodes, n'avoir que cela pour religion, pour toute religion. Non, ce qu'il nous faut, frères et sœurs, c'est quelque chose qui se révèle constamment à la hauteur de nos besoins, de nos nécessités du jour, quelque chose qui soit vrai, réel. Peu importe ce qu'il doit nous en coûter, peu importe les impasses, les déconvenues, les exigences, pourvu que ce chemin nous apporte la réalité de la vie, de la vie divine. C'est cela qu'il faut au peuple de Dieu, une vie chrétienne qui soit vraiment vivante, qui soit réelle, qui soit pour lui un défi continuel et à travers lui, que cela en soit de même pour les autres, que nous appellerons par notre témoignage de la foi. Le secret d'une telle vie chrétienne est de voir le Seigneur et de voir de façon grandissante la signification de Christ. C'est par ce chemin de révélation vivante que vient la puissance. Veuille le Seigneur lui-même expliquer à nos cœurs, aux yeux de nos cœurs, ce que cela signifie, et qu'il veuille aussi nous interpréter lui-même par son esprit, sa parole. Telle est ma prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.